les pharisiens qui très vite ont voulu se débarrasser de Jésus ont très vite, on le voit dans l'évangile, décidé de le mettre à mort parce qu'il gênait leurs affaires. Les pharisiens ont pour cela dû d'abord faire taire des voix dissidentes à l'interne. Ils n'étaient pas tous d'accord sur le sujet. Donc, on le voit avec Nicodème dans l'histoire de Saint Jean. Mais ils ont dû surtout passer des accords à l'extérieur. Ils ont dû aller voir et se rallier ceux qui étaient leurs adversaires la veille même. Passer des accords proprement politiques avec d'autres factions, les Sadducéens, les Hérodiens, différentes factions juives qui n'étaient pas du tout d'accord entre elles, qui étaient des adversaires entre eux, et qui se sont coalisés jusqu'à se compromettre tous ensemble, avec le pire, avec l'occupant romain. Pourquoi les pharisiens ont fait ça? Parce que les pharisiens en eux-mêmes ne constituaient pas une force suffisante de résistance à la puissance du message de l'Évangile, à la puissance du Christ. Ils ont donc été forcés de passer des alliances, au plus mauvais sens du terme, au sens le plus politique, c'est de tout temps et de toute génération. Mais ce n'est pas comme ça que nous comprenons, nous, l'alliance, au sens biblique, au sens chrétien. Et pourtant, ils ont fait ça en connaissant toutes les mises en garde de l'Écriture, et notamment, il y a une phrase très imagée qu'on trouve dans l'Ancien Testament, qui dit « Tu ne laboureras pas avec, dans ton attelage avec un bœuf et un âne attelés ensemble. » Vous comprenez bien que dans le livre de la loi du livre du Deutéronome, ce n'est pas un conseil agricole. Il faut pouvoir entendre l'esprit même de cette consigne. Et saint Paul, d'ailleurs, dans le Nouveau Testament, l'a reprise de façon très explicite en disant « Ne formez pas d'attelage disparate avec des gens qui sont trop différents de vous, trop opposés, incompatibles. » Pas d'attelage disparate entre croyants et non-croyants, entre les gens honnêtes et les gens malhonnêtes, entre le juste et l'impie. Et même saint Paul, c'est dans la deuxième lettre aux Corinthiens, s'emporte. Quel accord du Christ avec Satan? Quel partage possible entre un croyant et un incroyant? Quelle entente possible entre le sanctuaire de Dieu et l'idolâtrie? Sortez du milieu de ces gens-là, dit saint Paul. Plutôt dit le Seigneur, et moi je vous accueillerai, je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles. Ça, c'est la phrase de l'Alliance. Je serai pour vous un père, vous serez pour moi des enfants. Quelle était l'incompatibilité fondamentale entre le Christ et les pharisiens? On va dire, c'est parce que c'était des hypocrites. Leur hypocrisie, non, ça ne suffit pas. C'était leur légalisme, leur lecture trop formelle, superficielle. Non. L'incompatibilité fondamentale, c'était leur amour de l'argent. Et il y a un moment dans l'évangile où Jésus explique, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, vous ne pouvez pas idolâtrer l'argent, vous ne pouvez pas servir deux maîtres, Dieu et l'argent. Et les pharisiens qui étaient là se sont moqués de lui. Et le texte dit, parce que c'était des amis de l'argent. C'était des amis de l'argent, c'est-à-dire, c'était des amis du pouvoir et de tout ce que permet l'argent, du confort, de toutes les facilités qui vont avec. Dans l'ordre humain, qui est marqué par le péché, les alliances, elles visent le pouvoir. Il s'agit d'obtenir le pouvoir, de gagner le pouvoir. Ça ne vise pas l'unité. Ça ne vise pas la sécurité. Non, le pouvoir. Parce que dans l'ordre humain, que sont ces alliances? Ce sont, le terme ancien, c'était on parlait de pacte de vassalité, un pacte qui est fondamentalement un pacte intéressé, qui est constitué par l'engagement que prend le plus fort de protéger un plus faible, moyennant quoi, en échange de son ralliement, moyennant quoi il gagne des forces supplémentaires, en échange de son ralliement et surtout de sa soumission. Le plus faible se soumet au plus puissant. Et c'est ainsi d'ailleurs que on a présenté à tort, de façon très erronée, ce qu'on appelle la première alliance, comme si c'était, comme si la loi divine était une loi de servitude, où le peuple d'Israël se serait engagé à servir le Seigneur en échange de sa protection. Non ! Ça, c'est une conception très politique, pas du tout théologique, pas religieuse. C'est une conception politique qui est imposée effectivement par la faiblesse humaine, par les dangers, par les circonstances, mais qui est restée présente encore aujourd'hui dans de très nombreux esprits, y compris dans la vision du mariage, du couple de l'homme et de la femme, où l'homme serait chargé d'assurer la protection à la femme en échange de sa soumission. Combien d'hommes encore pensent cela aujourd'hui? Et même également, combien de femmes? Telle n'est pas la réalité du mariage catholique, du mariage que le Christ a élevé au rang de sacrement, où d'ailleurs l'échange des consentements est rigoureusement identique pour l'homme et pour la femme, pour exprimer leur parfaite égalité devant Dieu. Leur parfaite égalité devant Dieu, unis par Dieu. Ils sont une seule chair, avec les mêmes droits, les mêmes devoirs, la même dignité. Vous voyez les progrès qui restent quand même à faire. Et il faut préciser à cet égard que le mariage catholique n'est pas le sacrement de l'Alliance, même si effectivement c'est le geste très fort au cours de la célébration où les mariés se remettent l'un à l'autre, les fiancés se remettent à l'autre, justement une alliance en signe de leur engagement. Mais le sacrement de l'Alliance, c'est le baptême. Le sacrement de l'Alliance, c'est le baptême qui nous a plongés dans la mort et la résurrection du Christ pour que nous soyons unis à lui, pour pouvoir être unis les uns aux autres. Et de la même façon, si au jour du mariage, nous reprenons la parole du Christ que nous entendons dans l'Évangile aujourd'hui, ce que Dieu a uni, que l'homme ne le sépare pas, le mariage n'est pas non plus le sacrement de l'unité. Le sacrement de l'unité, c'est la messe. C'est l'Eucharistie. C'est la célébration du mémorial de notre rédemption, de notre salut, par lequel, unis à Dieu, nous cherchons à vivre jour après jour cette unité entre nous. Et le troisième sacrement trinitaire, il y a le baptême qui est notre lien au Père. Il y a l'Eucharistie, notre lien au Christ. Le troisième sacrement trinitaire, la confirmation, qui est le don de l'Esprit, on peut très bien le définir comme le sacrement de la prière, justement par le don de l'Esprit. La prière comme un acte d'alliance, c'est ainsi que le catéchisme la définit. Le catéchisme de l'Église catholique définit la prière comme une relation d'alliance entre Dieu et l'homme dans le Christ. Et cette alliance a deux caractéristiques. D'abord, c'est une pure initiative souveraine de Dieu. Et surtout, c'est l'expression de son amour. C'est une alliance amoureuse. Chaque fois que nous venons prier, que ce soit à la messe tous ensemble, que ce soit chaque jour tout seul, chaque fois que nous allons prier, nous répondons à une invitation. Nous répondons à l'appel de Dieu parce que Dieu est premier, Dieu est toujours premier, Dieu nous a aimés le premier. Et c'est la raison pour laquelle il est toujours bon, disons, préférable de commencer par l'écouter. C'est pour ça que nos célébrations commencent par l'écoute de la parole de Dieu. C'est pour ça que même quand nous sommes tout seuls, il est bon de commencer par reprendre un verset, une phrase, un passage de l'Évangile, parce que la prière est toujours une réponse à l'amour. Et nos demandes, pour pouvoir être exaucées, supposent que nous sachions ce que Dieu attend de nous. Alors bien sûr, dans la vie quotidienne, nous sommes parfois tellement bouleversés que nous commençons immédiatement par déverser ce que nous avons sur le cœur. Et c'est normal. Dieu, le Père de toute miséricorde, exactement comme une mère qui reçoit, qui accueille ses enfants de retour de l'école et qui ont tellement de choses à lui dire, à raconter ce qu'ils ont découvert, ce qu'ils ont vécu. Lorsqu'au premier temps de la création, c'est ce que nous avons entendu en première lecture, Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Cela s'entend évidemment aussi, voire d'abord de la prière. Il n'est pas bon que dans la prière, nous ne portions que nos seules demandes, nos seuls intérêts. Sans faire nôtre les cris de nos frères, la prière, les souffrances du monde, tout ce qui justement nous a été confié, l'alliance nouvelle et éternelle que nous allons célébrer dans quelques instants dans cette Eucharistie. Elle a été conclue dans le sang du Christ, par son cœur transpercé, pour nous apprendre à ouvrir notre cœur aux dimensions du monde, ouvrir d'abord notre cœur à l'amour du Père. C'est cela notre mission. Être fidèle à l'alliance, fidèle à son amour. Il y a un psaume qui dit « J'aime le Seigneur, il entend le cri de ma prière. » Et la dernière phrase de ce psaume dit « Je marcherai en présence du Seigneur sur la terre des vivants. » La prière est une relation d'alliance.